32nd pick in the 2018 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback, Louisville.
All right.
Some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball.
Curry drive, scoop layup.
All beauty from Steph Curry.
If I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them.
Moore told us, and now we have an altercation. Alex Ovechkin pounding away on Andre Svechnikov, who's down.
That one right there made you the greatest player of all time.
Hype World Series, ça y est, c'est parti. Deux matchs déjà ont été joués. On va aller vite pour présenter un petit peu les enjeux de ces deux matchs. On va se faire justement avec l'équipe MLB du jour le débrief du Game 1 remporté par les Dodgers 8-3 avec une grosse performance de Clayton Kershaw qui avait des choses peut-être à montrer. Il est aussi dans l'histoire, hein. C'est un match historique pour lui. On va en reparler. Et Game 2 pour Tampa Bay Rays, donc qui ont réagi 6-4 avec un match qui s'est passé en deux temps. Il y a eu deux actes dans ce match. On va essayer d'en reparler avec l'équipe. Ça va vite, hein, dans ces séries. Les équipes étaient au repos hier, mais elles rejouent ce soir le Game 3. Donc on profitera aussi de la présence de nos analystes et de notre invité pour se lancer dans une petite preview Game 3. On voyait tous à peu près une série assez longue. Bon, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Bon, assez parlé. On va essayer on va laisser les analystes rentrer dans l'arène. C'est un retour, même si elle est jamais très très loin. Marion est avec nous. Salut Marion.
Salut tout le monde. Bonsoir et ravi de faire mon retour à l'occasion de ces Super World Series.
Yes. Ben on est ravi de t'avoir, Marion. Ça faisait quelques semaines. On sait que t'es toujours très proche des Yankees, même si ils sont pas en World Series. Le baseball t'intéresse quand même, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Je suis pas inquiet. Martin, notre gars à nous, Martin de The Strikeout, ouais. Marion aussi d'ailleurs est là. Salut Martin.
Ouais. Bah salut Sylvain, salut Marion et puis salut à toutes et à tous. Et ravi de enfin d'être dans le vif du sujet avec les World Series. C'est ce qu'on attend tous depuis le début de la saison.
Bon, ok, bouge pas, Martin, on va t'écouter. Bon, elle est toujours multiple championne de France de softball, baseball aussi, puisqu'il y a des titres, hein, championne d'Europe, je crois, l'été dernier. Raina revient pour nous conter ses analyses encore une fois. Salut, Raina.
Salut, merci encore de m'inviter ce soir.
Ben on est ravis de t'avoir. On est content de pouvoir justement, je le dis et je le redis, échanger avec ceux qui font le sport sur les terrains de France et d'Europe. Merci aussi pour ton soutien. On sait que t'as été très active là sur les réseaux sociaux pour faire parler un peu le baseball et hype. Donc y a pas de souci, tu es chez toi ici, Raina. Allons-y. D'ailleurs, on va commencer peut-être avec Marion. Donc le principe est le même, hein. On essaie de synthétiser en un point clé sur le Game 1. Je rappelle que ça a été pris par les Dodgers 8-3. Marion, quel est le point clé, toi, qui t'a marqué sur ce Game 1 ?
Je dirais qu'il y a deux points clés, mais je crois que Martin va développer le deuxième. Donc, moi, je parlerai de Clayton Kershaw. Bien évidemment, qu'on attendait au rendez-vous. On sait, vous l'avez dit lors de la présentation de ces World Series, c'est pas le roi des playoffs, généralement, Clayton. On attendait beaucoup pour voir s'il allait sortir enfin un gros match. Il a répondu présent, plus que ça. Il a fait un excellent match. Hein. Il lance 6 manches, il concède que 2 hits. Il fait 8K, donc vraiment, il a contrôlé son match de bout en bout. Il a permis de parfaitement lancer les Dodgers. Donc vraiment une belle réaction de sa part, hein, de faire taire quelques langues, hein, dont la mienne. Hein. J'avoue que sur le podcast de foot, j'avais...
La mienne aussi, Marion. La mienne aussi, hein. J'étais un peu dubitatif. Vraiment.
Donc il a répondu présent, c'est bien. Il rentre effectivement, tu l'as dit, un peu plus dans les livres d'histoire et s'approche du record de strikeout en post-season, hein, qui est détenu pour le moment par Justin Verlander et qui a 4 longueurs. Sauf blessure, a priori, on va revoir Clayton Kershaw dans ses séries. A priori, il est programmé pour le Game 5. Il y aura forcément un Game 5, un petit 1 partout. Mm-hmm. Donc normalement, on aura le droit à notre deuxième stade de Kershaw. à voir s'il va réaliser une deuxième grosse performance de la sorte. Enfin, voilà, c'est comme Martin l'avait dit la semaine dernière, il espérait ce gros start, c'est mérité. C'est vrai que c'est mérité pour sa carrière, donc vraiment parfaitement lancer la thèse des beaux joueurs, c'est ce que je retiens. Et puis un deuxième joueur dont Martin va parler tout de suite, bien sûr, qui a aussi parfaitement lancé ses séries pour le coup de l'air.
Yes. Plus de deux joueurs d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une performance assez égale des stars qui ont tout répondu présent. Clayton Kershaw, on peut citer, hein, c'est 200 strikeouts. Il passe John Smoltz donc pour la deuxième place et c'est quand même une vraie performance. Reina, tu souhaitais aussi que Clayton Kershaw puisse être à la hauteur. Il a été au rendez-vous. Hein.
Oui, tout à fait. On en avait parlé lors de notre preview de mardi. J'espérais pour lui. Enfin, c'est ce que je disais un petit peu en disant voilà, j'ai mon cœur qui balance entre les Rays, les Dodgers, je sais pas trop. Mais j'aimerais en tout cas pour lui, il y arrive. Il était là, il a été là, et je pense que c'est bien pour la suite. Et notamment là, on parle normalement du Game 5 où il serait là. Et voilà, je pense que il a montré qu'il était capable et il l'a montré à toutes les mauvaises langues, mais mauvaises langues. Alors, en tout cas, les personnes qui ont parlé, ouais. Il était au rendez-vous cette année et je pense que c'est très bien pour lui, pour l'équipe et pour la suite et notamment le potentiel Game 5 qui va starter quoi.
Alors, il y a une question qui a été posée sur notre compte Twitter. Et ça a été relayé justement par des tweetos qui souhaitaient savoir si Clayton pouvait être à ce niveau pendant toute la série. Donc c'est une question que je te pose. Est-ce qu'il est en mesure de lancer comme ça sur 7 matchs, si jamais on devait aller en 7 matchs?
Je pense que oui, notamment parce qu'en fait, c'est sa capacité à lancer, elle est... Sa performance c'est notamment une performance mentale. Il a montré que malgré toute la pression, malgré tout ça, il a été capable de le faire. Je pense que physiquement, à moins qu'il y ait une blessure, mais ça on lui souhaite pas et on le souhaite à personne bien évidemment, mais je pense que mentalement il est prêt, il l'a montré et ça va lui redonner encore de la confiance pour pouvoir, je pense, tenir jusqu'à la fin s'il y a 7 matchs.
Martin,
je crois.
Martin,
si je peux me permettre.
Vas-y, Martin.
Il avait quelques douleurs au dos qui avaient repoussé son start. Donc, comme Ryan a dit, si physiquement il est bien, en tout cas psychologiquement il est en forme, donc il sera très attendu pour ce Game 5. Moi, je mets juste un petit bémol. Enfin, j'espère pour lui qu'il n'aura pas de douleurs au dos là ces jours qui ont suivi son start. A priori, on n'a pas de nouvelles en France, donc c'est effectivement plutôt positif.
Après, c'est un peu the last chance you pour lui. Hein. J'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, quoi. Qu'il ait bon, effectivement des problèmes physiques, ça peut impacter ses performances, mais on attend vraiment et on serait ravis qu'il fasse une grosse série, quitte à être MVP même, et qu'il ait la victoire au bout pour les Dodgers. Avançons, les Dodgers ont été bons, et c'est aussi parce que Mookie Betts a su répondre présent. On connaît la qualité du joueur. Il sortait des Boston Red Sox pour aller donc aux Dodgers. Le défi était immense quand même pour lui. C'était pas easy que d'aller dans cette franchise et de s'installer comme un leader tout de suite. C'est un peu ce qui montre Mookie. Et je crois que Martin a envie déjà de placer Mookie parmi les big guys de la MLB cette saison et peut-être pour les saisons à venir.
Bah ouais, parce que comme tu viens de le dire Sylvain, c'était pas évident pour Mookie Betts. Bah, il quitte la franchise de Boston, des Red Sox, qui était un peu la sienne, et il arrive dans la franchise des Dodgers où il y a déjà beaucoup de monde. Il y a Bellinger, il y a Corey Seager, il y a Kershaw, il y a Buehler et j'en passe. Et déjà, il s'est déjà imposé comme une des forces de cette équipe immédiatement, et directement dans ce match 1 des World Series, il a été étincelant. Il a frappé deux coups sûrs, il a produit un point, il a marqué deux points, il a surtout volé deux bases. Donc il a vraiment tout fait pour cette équipe des Dodgers offensivement et défensivement comme d'habitude. Mmh. Et donc j'ai l'impression que pour ces deuxièmes World Series en 3 ans, faut le rappeler pour Mookie Betts, Il est en train petit à petit de rattraper son retard par rapport à Mike Trout pour le titre de meilleur joueur de la MLB actuellement. Donc voilà, pendant longtemps, ça fait une bonne dizaine d'années, Mike Trout est quasiment sans prétendant et sans adversaire pour le titre de meilleur joueur de la planète. Et là, j'ai l'impression que avec cette série de post-season, Mookie Betts est en train de faire le retard. En tout cas, c'est ce qu'a dit Cici Sabathia, hein, l'ancienne légende des Yankees, qui pour lui, Mookie Betts a déjà passé Mike Trout, et cette phrase a fait beaucoup parler du côté des États-Unis. On le sait, hein, le duel pour les GOAT, ça fait toujours beaucoup parler, mais voilà, moi je pense que Mike Trout était encore devant, mais Mookie Betts a fait un grand pas pour se rapprocher de Mike Trout, et j'ai hâte de voir les prochaines saisons pour voir si Mookie peut aller essayer d'aller chercher titiller Mike Trout pour le titre de meilleur joueur. Je sais pas ce qu'en pensent les filles, mais moi en tout cas, je vois encore Mike Trout devant, mais Mookie Betts est vraiment en train de s'imposer comme
ça se resserre.
Exactement.
Raina,
exactement,
ouais. Qu'est-ce que tu Mookie ou Mike Trout encore?
Ah, Mookie. Je suis peut-être pas tout de suite là maintenant, mais effectivement là il fait une performance qui est assez impressionnante, une saison et là sur ses World Series, ce match 1, il est juste hallucinant, les deux vols de base qu'il fait permettent clairement de montrer toutes ses capacités. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il peut faire. J'aime ce qu'il me donne aussi bien en attaque qu'en défense. Enfin, je trouve qu'il est très complet. Voilà, je pourrais pas départager là tout de suite. On pourra s'en reparler à la fin du match 7, parce que j'espère toujours qu'il y aura 7 matchs. Et s'il continue comme ça cette série, je pense qu'on va pouvoir le passer devant.
Juste pour
Vas-y Martin.
Pour compléter, le seul problème pour la comparaison, c'est que Mike Trout n'a pas assez de performance en post-season pour pouvoir avoir un comparo. C'est bien le problème, et tous les détracteurs de Mike Trout qui posent sur la table, c'est que Mike Trout est dans une équipe pitoyable, on va dire.
Est-ce que c'est pas aussi sur ce critère-là qu'on juge la performance d'un joueur, quoi? Tu vois?
C'est pour ça, mais le Mike Trout, lui, en tout cas, il n'a rien à se reprocher. Il a toujours fait. C'est ça aussi qui est fort chez Mike Trout, c'est qu'il aura toujours fait ses stats, peu importe le truc. Mais le problème, c'est que son équipe ne parvient pas à aller en post-season, et du coup, on ne peut pas avoir de motif de comparaison avec Mookie Betts. Et c'est aussi pour ça que Mookie Betts est en train de rattraper le retard, c'est qu'il est en train de briller sur la plus belle des scènes, et forcément, ça a un gros avantage dans la tête des gens. Donc, Mookie Betts est beaucoup plus complet que Mike Trout à l'instant T, puisque Mike Trout est quand même sur une phase un peu descendante. Hein, je pense notamment sur les vols de base, et défensivement, il commence à montrer un peu de fatigue. Et Mookie Betts, quant à lui, continue à performer dans tous les domaines. Donc voilà, l'écart se resserre, et puis ça restera une discussion, comme l'a dit Reina. C'est difficile pour l'instant de faire un choix, mais en tout cas l'avantage c'est que maintenant c'est qu'on peut y avoir cette discussion. Avant il n'y avait aucune discussion, et maintenant il y a discussion, et c'est ça qui est superbe avec Mookie Betts, c'est qu'il s'est imposé comme un joueur qui peut avoir la discussion pour le rôle de meilleur joueur, quoi.
Marion, Mookie ou Trout?
C'est exactement l'argument que j'allais utiliser avant que Martin le reprenne, c'est que moi je serais d'avis de mettre Mookie Betts, tout simplement parce que lui il est présent en post-season. Alors chez lui c'est pas que de la faute de Trout, si les Angels sont en playoff. Mais pour moi un grand joueur doit être capable d'insuffler quelque chose dans son équipe. Pourtant en tant que fan des Yankees, vous savez mon unanimité pour Boston Red Sox. Mais sachez que Mookie Betts, depuis toutes ces années, c'est lui qui a porté Boston tout en haut, vers le titre notamment il y a deux saisons. Donc moi je serais vraiment d'avis de mettre Mookie Betts devant en ce moment, parce qu'il est capable d'élever encore son niveau de jeu dans les matchs qui comptent. Et Mike Trout, malheureusement pour lui, on l'a vu une fois en carrière, en post-season, c'est tout, quoi. Et donc, je veux bien, c'est bien, il est peut-être le meilleur joueur du monde, mais sur la saison régulière, et tant qu'il n'y a pas ses performances au plus haut niveau, moi j'ai quand même tendance à dire que c'est un petit peu délicat de le mettre comme ça sur son piédestal. Donc en tout cas pour moi, en tout moment c'est Mookie Betts, et voilà, je m'apprends.
Pour finir sur cette question, vous pensez qu'on est vraiment à un moment bascule, peut-être Raina, est-ce que tu penses que là, à partir de maintenant, il y a un peu statement par rapport aux performances de Mookie, et qu'il faut s'attendre à ce que Mookie prenne le dessus maintenant dans les performances de manière régulière sur Trout?
Je sais pas s'il prendra le dessus de façon régulière, mais en tout cas là il montre un aspect effectivement qu'on peut pas forcément voir sur Trout parce qu'il est pas en post-season ou mais je pense qu'il montre l'intégralité de son jeu aussi bien physiquement, défensivement, offensivement, mentalement, il est là, il est au rendez-vous, match 1 des World Series, il frappe du feu de Dieu, il vole, il joue, enfin voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi qui fait partie dans les qualificatifs du meilleur joueur. Qu'est-ce que c'est un bon joueur, le meilleur joueur? Ben c'est quand on a tous les aspects qui font le jeu. Et être performant dans les grands rendez-vous, ça fait partie de ça. Donc je pense que il est sur la lancée en tout cas pour être le meilleur.
Ok.
Dans tous les aspects du jeu, à tous les niveaux.
Ok, ok. Leadership et puis polyvalence effectivement.
Et puis pour terminer, Mike Trout, c'est quand même une star très très discrète en dehors des terrains.
Mookie, c'est autre chose.
Voilà, Mookie, il a une aura. Il a vraiment une aura différente de Mike Trout et ça peut aussi jouer pour notre ami Mookie, c'est que bah justement il dégage quelque chose que Mike Trout peut-être Mike Trout c'est le calme froid hein, du glacial de la superstar hein. on sait pas grand chose sur lui à part qu'il est fan des Philadelphia Eagles, donc encore un coup dur pour lui, mais mais voilà, Mookie Betts,
tu vas te faire des ennemis toi hein, si tu continues.
Mais voilà, donc voilà, Mookie, c'est vraiment, il est vraiment excellent partout, que ça soit dans sa communication, en dehors du
futur
terrain.
Futur MVP ou pas, si jamais ça passe pour les Dodgers, futur MVP, non?
MVP des World Series, peut-être, sans doute. MVP de la saison régulière, ça me paraît compliqué. Il y a quand même du monde, notamment Freddie Freeman.
Le plus important, ça reste les World Series, hein, je pense. Hein.
Le plus important, c'est d'avoir la bague à la fin. Hein, donc, je pense qu'il se passerait bien d'un titre de MVP pour avoir une nouvelle bague.
Bon, Game 2, égalisation des Rays, qui ont été un peu plus eux-mêmes sur ce match. Ouais, ils se devaient de réagir quand même. Il y a eu deux actes, comme je disais en préambule. Un vrai premier acte avec un Snell quand même à la hauteur de son prix de Cy Young de 2018. Moi, je l'ai trouvé vraiment... vraiment vraiment très très bien, et puis nos amis qui reviennent parce qu'ils savent faire, les Dodgers quand même avec l'équipe au complet, on l'a dit, ne lâche rien, donc ça donne pour le score, c'était voilà 6-4 pardon. Que penser de ce deuxième match, la question un petit peu ouverte, est-ce que ça repositionne un petit peu les Rays dans le principe de compétitivité qu'il faut absolument avoir quand on est en World Series, c'est-à-dire ne rien lâcher, offense, defense, on est là. Qu'est-ce que t'en penses, Raina, de la réaction des Rays? Est-ce que ça donne un peu plus de garantie sur la suite sur la compétitivité des Rays sur la suite de la série, pardon?
Ah oui, complètement. Moi, je l'avais annoncé, pas ensemble, mais je l'avais évoqué en tout cas sur le fait que ce deuxième match, ils allaient le prendre. Je crois que ils ont montré une belle réaction. Après, effectivement, avec les Dodgers, parce que tu le disais, hein, le match, il a été vraiment en deux actes où ils sont devant et juste, enfin voilà, le match n'est pas fini tant que l'arbitre il a pas dit game over. Et là il y a eu quand même une belle réaction des Dodgers en cinquième manche, voilà, mais je pense que voilà, c'était pour moi, j'espérais qu'ils allaient le prendre, ils l'ont pris d'une belle façon et je pense que c'est pas fini et on parlera du match qui arrive cette nuit, mais je pense qu'il est pour eux également. Ils ont montré de belles choses sur ce match et effectivement avec une belle sortie des lanceurs. Quoi. Donc, ils ont fait leur job.
Yes. Tu penses que c'est plutôt les Rays qui ont pas su être réguliers sur ce match ou alors c'est la montée en puissance des Dodgers dans le deuxième acte qui fait qu'on est quand même revenu à une situation un peu en mode suspense quand même, hein, parce que c'était un peu ça quoi.
Oui, c'est ça. Jusqu'à la fin, effectivement, se dire que tout pouvait rebasculer. Je pense que c'est plutôt, c'est pas un excès d'orgueil, mais c'est une réaction peut-être un peu d'orgueil des Dodgers où je pense que les Rays on fait leur job de la première manche à la dernière. De toute façon, ils ont gagné, donc voilà. Mais qu'à un moment, il y a eu cette réaction des Dodgers de dire attends, là, il faut qu'on se bouge. Et ils se sont bougés, mais ça n'a pas été suffisant parce que les Rays ont su quand même maintenir à leur place. Alors c'est comme ça qu'ils étaient sur ce match-là derrière eux.
Marion, on faisait nous en preview aussi l'analyse des coachs, la gestion justement de Kevin Cash sur ce match. Est-ce que tu penses qu'elle est la meilleure? Je cite un peu, enfin je cible surtout les points accordés par Snell. Est-ce que ça aurait pu être évité
Je pense donc autant je me suis posé pas mal de questions sur le gamin, puisqu'on a vu que Glasnow avait lancé beaucoup, hein, sans doute pitch, ça m'avait étonné, puisque Cash il a plutôt tendance à enlever ses pitchers plus rapidement que ça, donc je m'étais un peu étonné de ça. À l'inverse, non, là, je crois que les décisions qu'il a faites sont justifiées, hein. Blake Snell, il a quand même peur jusqu'à ce qu'il s'avance. Alors, certes, il prend au moins de Taylor, et si on voit que les autres gens reviennent dans le jeu, mais ça aurait été une erreur d'allonger avant. On sait qu'au tour précédent, face aux Astros, il y a un match où Snell sort en 4 rounds, je crois, Martin, c'est pas si en vrai, face aux Astros, mais Snell n'était pas content, parce qu'il disait qu'il avait pas encore beaucoup de d'huile dans le moteur, quoi. Il avait beaucoup de choses encore dans le bras, et Cash l'avait sorti. Ouais. Donc là, je pense que c'est une bonne gestion sur ce match 2. J'étais moins surprise. Par contre, c'est vrai que le bullpen des Rays, sur le deuxième match consécutif, c'est un peu montré des limites, mais c'est vrai qu'on les attendait peut-être à un autre niveau. Alors, les journées de repos d'hier
a fait du bien, parce que
c'est vrai que ça avait beaucoup lancé. Hein. On sait, on répète, ils ont joué, avant ces World Series, il y avait des matchs tous les jours, et on sait que les Rays utilisent vraiment Cash, utilisent leur son bullpen. Donc peut-être la journée de repos là ça fait bien. Donc moins surpris sur ce match-là par la gestion de Snell et de Kevin Cash que sur le Game 1.
Martin, allons sur ton point numéro 2. Toi, tu voulais parler de... Dans Rose Arena, hein,
la
révélation, voilà, merci des Rays, qui a eu un petit peu de renfort quand même sur ce Game 2, on parlait de Snell, je te laisse évoquer ce point.
Bah oui, écoute, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans la preview avant les World Series, c'est que pour l'instant, à Rose Arena a porté l'attaque des Rays pendant toute la post-season à lui tout seul. Il a égalité avec Derek Jeter pour le plus grand nombre de hits par un rookie en post-season. Je crois qu'il a battu le record de home run pour un rookie sur la post-season. Donc il a tout explosé. Mais on s'était dit que face à la multitude d'armes offensives des Dodgers, il pourrait pas tout tenir tout seul. Et ça se prouve, hein, il est un peu en difficulté. Il est un peu en difficulté en début de série. Après, on peut le comprendre. Hein, c'est les World Series. C'est un autre niveau, et dans le match 1, il n'y avait pas eu trop d'aide non plus, puisqu'ils se sont inclinés, nos amis des Rays. Mais là, il y a eu enfin du réveil, hein, pour Tampa Bay, avec notamment Brandon Lowe, hein, c'est lui qui est censé être la star offensive de cette équipe, et il s'est réveillé, puisqu'il a juste tout simplement frappé 2 home runs, donc ça aide, hein, pour marquer des points et gagner des matchs. Donc, petit réveil de Brandon Lowe. Enfin, il y a Joey Wendell aussi qui a frappé un coup sûr et qui a ramené 3 points, donc c'est aussi très, très efficace. Il y a Manuel Margot aussi qui est présent. Jimin Choi, hein, le premier coréen de joueur de champ évolué sur World Series, qui est également plutôt en forme. Donc voilà, si tous les joueurs offensifs de Tampa Bay se mettent au niveau ou essayent de se rapprocher du niveau d'Arroz Arena, ça va pouvoir donner un peu d'air à Tampa Bay offensivement, et aussi de l'air pour les lanceurs, parce que c'est quand même beaucoup de pression de lancer avec des matchs très très serrés. Donc si les lanceurs savent que leur attaque va pouvoir répondre présent, et pourquoi pas reprendre des points que les lanceurs viennent de concéder, ça peut aussi être un petit plus pour les lanceurs. Donc on espère que ça va tenir pour l'attaque des Rays, parce que on a vu, les Dodgers ont été très précautionneux avec le Arroz Arena. Il a quand même déjà 3 buts sur balle, hein, pour commencer cette série. Donc on voit, on lui fait aucun cadeau. C'est ce qui a aussi péché d'orgueil de Houston, c'est que les Astros avaient continué à lui lancer des balles rapides au jeune champ gauche des Rays, et à chaque fois il s'était jeté dessus pour frapper. Là, les Dodgers, ils ont compris, ils ont appris de la leçon des Astros, et ils sont très beaucoup plus précautionneux. Voilà, ils lui lancent plus de balles cassantes et moins de balles faciles. Donc voilà, si les autres batteurs se réveillent, Arozonera aura plus d'opportunités de briller, parce que les Dodgers vont moins pouvoir se reposer pour essayer d'éliminer d'autres joueurs. Donc voilà, c'est un tout. Si l'attaque commence à cliquer, tout va pouvoir se mettre tranquillement en route pour Tampa Bay. Et les Dodgers vont avoir beaucoup moins d'avance sur le papier, quoi.
Raina, après deux matchs, comment tu trouves Arroz Arena, et est-ce que justement le salut vient pas par des joueurs qui step up sur toute la série pour tenter d'enrayer la machine Dodgers?
Je suis d'accord sur le fait que le premier match il a rien frappé, deuxième il a 1 pour 3 je crois, quelque chose comme ça, 3 buts sur balle. Je pense que il a pas eu autant d'opportunités que ça finalement de briller, de se mettre en valeur, oui, parce que les Dodgers l'ont bien scouté, hein, clairement. Mm-hmm. Ils ont été intelligents dans la construction de ses comptes, de la façon de le travailler et de le maintenir et de le contenir en fait, parce que même si quand il vient au bâton, il prend un bébé, le passage d'après, enfin voilà, je pense que ils ont essayé aussi de rentrer dans sa tête et de le faire douter un petit peu, sauf que ça va pas être possible avec effectivement le réveil entre guillemets, hein, des autres frappeurs des Rays, dont Lowe, comme c'était évoqué précédemment, ouais, qui fait un bon deuxième match, quoi.
S'il arrive à être régulier pour faire souffler un petit peu à Arroz Arena, ça peut quand même donner plus de garanties aux Rays.
Ah oui, et puis si dans le line-up, leur premier frappeur avec Meadows, Lowe, Arroz Arena et Choi, et si ces trois-là restent à peu près réguliers ça va être, je pense, plus compliqué pour les Dodgers de les contenir. Ils pourront pas se permettre de lâcher des bébés comme ça.
D'accord, en tout cas. Je vois. Ok. Avançons, Martin, si tu avais complété ton point sur le Game 2. Moi, je voudrais qu'on aille sur la prévue du Game 3, parce que c'est cette nuit. Ce sera sur les antennes de Beansport 1, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais c'est pas le cas, vous zappez, hein. Beansport 2 ou 3 et vous tombez.
Des Beans. Beansport 1, effectivement.
Exactement. Merci. Merci, Martin. Preview pour le Game 3. On va laisser Marion, tiens, nous dire un petit peu ce que tu vois pour le Game 3 et quels sont les points clés à évoquer pour cette troisième manche.
Déjà, c'est un gros choc sur Monticule. Je crois que Martin, c'est ce que Martin voulait avancer. Donc, Charlie Morton contre Walker Buehler. Donc, un vrai gros duel. Mm. Moi, je vais laisser Martin parler de ça. Je parlais plutôt de la physionomie du match, en fait, pour les Rays. J'ai trouvé des stats assez intéressantes. En post-season, là, les Rays, ils ont 7 victoires et une seule défaite quand ils marquent en premier dans une rencontre.
D'accord.
Donc, c'est tout l'importance vraiment de prendre le devant. Et de toute façon, c'est un point qu'on avait évoqué sur le strike. Il faut pas que les Rays, ils soient derrière les Dodgers. Parce que les Dodgers, avec leur expérience, avec leur vécu, ils sont très difficiles à rejoindre dans un match. Donc, les Rays, ils font comme au deuxième match, qu'ils prennent l'avantage très vite dans la rencontre. Et qu'après leur bullpen fasse le job qu'ils ont l'habitude de faire. Pour moi, c'est vraiment une des clés du match. C'est au moins rester serré le plus longtemps possible et voir être devant. Parce que dans ces cas-là, les Rays sont vraiment quasi imprenables. Et deuxième point, c'est de marquer. Alors, bien sûr, en baseball, si tu marques le plus de points à gagner, mais pour les Rays, ça s'avère vraiment, vraiment payant. Autre stat, ils ont 19 victoires et 0 défaites cette saison quand ils marquent plus de 6 points.
Donc il faut vraiment mettre des points.
Les matchs à petit score comme ça, ils ont tendance à être moins bons. Donc vraiment là au premier, on l'a vu, ils ont marqué 3 points et se sont fait largement dominer. Deuxième match, ils sont partis beaucoup plus fort et ils ont rapidement mené. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'importance pour les Rays, c'est de faire la course en tête. Vraiment, ce sera pas facile, hein, contre Walker Buehler, mais c'est ça que je retiens et que je retiens comme clé pour eux. C'est surtout ne pas laisser les Dodgers prendre le devant, comme on l'a vu au match 1, parce que là, pour moi, c'est quasi mission impossible de revenir sur des joueurs comme ça, sur le bullpen des Dodgers aussi qui est excellent. Donc vraiment les lots, c'est bien lancé, Wendell et compagnie, il faut vraiment qu'ils soient agressifs dès le début de la rencontre sur ce match 3.
Ok, Marion, je vais mettre Raina, dans la discussion, on parle beaucoup du bullpen et on le savait un petit peu moins performant que celui des Dodgers. Donc le bullpen des Rays, ils sont reposés là. Je sais que tu voulais évoquer ce point-là. Est-ce que tu les vois être un peu plus performants ou alors On sait de base que le bullpen des Rays est de toute façon moins outillé que celui des Dodgers. Est-ce que tu les vois mieux, vraiment? Peut-être Reina d'ailleurs, tiens, Reina.
Oui, je les vois mieux de par justement ce repos en fait. Je pense que ce repos est intéressant, notamment pour eux sur une série comme celle-là. Et je rejoins complètement Marion sur le fait que si il faut qu'ils scorent vite et beaucoup, l'importance du troisième match dans les World Series, c'est ça a été quelque chose qui n'est plus à démontrer. Hein, avec, je crois que c'est à peu près 70%. Les équipes qui ont gagné le troisième match, qui ont gagné les World Series derrière. Donc, ce match-là est quand même un match décisif et important. Et pour les Rays, effectivement, il faut qu'ils attaquent fort et tout de suite. Et en plus, comme ça, ça permettra de prendre l'ascendant psychologique. Voilà. Okay. Il faudra qu'ils le maintiennent, bien évidemment, jusqu'à la fin. Mmh. Mais voilà, je pense que ça peut être important. Et c'est pas impossible, vu le line-up qu'ils ont. Si tout le monde fait son job... dès le départ, ça peut mettre les Dodgers peut-être un peu dans le doute et peut-être dans la difficulté.
Dans une série à égalité, Reina, on va s'appuyer un petit peu sur ton expérience de terrain. Comment on aborde justement le game 3 là, tu viens d'en parler, peut-être attaquer pied au plancher ou alors être un petit peu chercher un peu de régularité et chercher de la confiance pour ensuite tu vois ce que je veux dire, accélérer et puis mettre tout le monde derrière soi, quoi.
J'ai envie de dire que ça dépend de l'analyse qu'on aura fait du deuxième match. C'est-à-dire que nous, quand ça nous est arrivé il y a 2 ans, il me semble, d'être à égalité, hein, sur donc un partout. Mmh. Le deuxième match, nous n'avions pas assez frappé. Clairement, c'est notre attaque qui n'a pas été assez performante. Et avec cette analyse-là, de se dire, il faut qu'on rentre dedans tout de suite, pas forcément pour frapper fort, mais construire en équipe. On n'avait pas été assez clutch au moment où il fallait, pas assez, voilà, on n'a pas fait le team batting qui est quand même important. Ouais. Alors oui, ils sont tous aujourd'hui là-bas capables de frapper des home runs. Nous, c'est un petit peu moins le cas. Donc il faut qu'à un moment, on soit capable de construire une stratégie offensive. Donc voilà, je pense que ça dépend de l'analyse qui est fait du match précédent.
Mais c'est plutôt axé sur vous et vos capacités, ou alors oui, vraiment du scouting en se disant oh, on a quelque chose en face, il faut absolument s'adapter et puis frapper là où ça fait mal, quoi.
Nous, sur ce qu'on a vécu, c'était plutôt sur basé sur nous et ce que je dirais être notre contre-performance dans le match 2.
D'accord.
Oui, l'équipe adverse a fait son job, mais nous n'avons pas été suffisamment performantes. Donc sachant que quand on arrive sur des fins de saison comme ça, il n'y a pas de nouveauté dans le pitching en face. On les a déjà affrontés plusieurs fois dans la saison, on les connaît. Donc là, c'était vraiment nous, qu'est-ce qui nous a manqué pour pouvoir aller chercher ce deuxième match et gagner. Donc c'était plus basé sur notre guillemets contre-performance, parce que c'est aussi une performance de l'autre équipe, mais nous c'était l'analyse était plutôt sur ce que nous avons manqué.
Beaucoup de travail en vidéo, j'imagine, peut-être et de retour avec les coachs pour parler de comment améliorer justement vos performances, quoi.
Complètement. C'est alors l'analyse vidéo quand on a le temps. Là, sur des séries en France, des fois c'est très court parce que en fait on a 2 matchs le samedi, 1 match le dimanche, donc ça peut être un peu compliqué de faire tout ça et on favorise plutôt le repos. Mais les statistiques, c'est des échanges de savoir ce qui s'est passé, de entre coéquipières aussi, parce que je pense que c'est important la transmission entre les joueuses les plus expérimentées et les plus jeunes pour pouvoir comprendre ce qui s'est, enfin comment on a abordé la batch, enfin de dire moi j'ai effectivement quelques finales derrière moi dans mes coéquipières. Chaque année il y avait des plus jeunes qui arrivaient et c'était leur première finale, donc de pouvoir discuter ensemble de comment on aborde ce match-là, comment on aborde le deuxième ou le troisième match de la série pour pouvoir performer en équipe. Et c'est vraiment pour moi, c'est un point clé, c'est qu'on reste un sport d'équipe et que c'est ensemble qu'on va y arriver. Parce que aujourd'hui, là, en tout cas, dans le softball féminin, en France, il y a quelques filles qui frappent des home runs, mais on n'est pas du tout sur des statistiques. Enfin, on peut pas comparer. Ouais, c'est pas comparable. Si ça se passe aux États-Unis, c'est ça. Ça serait bien de pouvoir se dire, bah voilà, j'arrive au bâton et à n'importe quel moment, je peux frapper un home run. Et c'est le cas des neuf dans le line-up. C'est pas tout à fait ça. Okay. Donc voilà. Eux, ils ont cette possibilité-là. Donc voilà.
À eux s'en servir.
Si ils attaquent fort et tout de suite. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement.
Martin, toi, tu mentionnes, mais c'est dans tous les sports la même rengaine entre guillemets, les matchs 3, tous les matchs impairs sont capitaux. Donc toi, tu pointais aussi le fait que cette rencontre sera capitale, que ce soit pour les Dodgers ou pour les Rays, et justement le match des Aces aussi.
Exactement, bah Reina l'a dit juste avant, hein, dans l'histoire des World Series, l'équipe qui remporte le match 3 a 69% de chances de remporter la série, donc c'est vraiment un tournant évidemment, mais là c'est d'autant plus que c'est les deux aces de leurs équipes qui s'affrontent, Walker Buehler pour les Dodgers et Charlie Morton pour les Rays.
Alors à qui l'avantage? Allez, on se mouille un peu là, qui va performer là?
Bah écoute, j'ai un grand coup de cœur pour Charlie Morton depuis 2017 et qu'il ait fini le match 7 pour Houston pour le titre. C'est lui qui a terminé les 4 dernières manches du match 7 des World Series, donc il a l'habitude de lancer pour les World Series. Donc je pense que Charlie Morton, c'est le spécialiste, hein, du côté des Rays de la MLB, des matchs à enjeu. Mmh. Et cette saison en post-season, il a trois matchs, 3 victoires, 0,57 d'ERA. Donc il est très 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 en forme dans cette post-season, donc je pense que il va avoir l'avantage. Malheureusement pour lui, il a un petit défaut, c'est qu'il n'a lancé que 2 fois cette saison plus de 5 manches. Donc ça pourrait avoir son importance pour le bullpen des Reds, on en a parlé juste avant. Donc petit avantage sur le début de match pour Charlie Morton, mais en face c'est Walker Buehler, c'est mon chouchou, c'est vraiment un des meilleurs lanceurs actuellement. Je pense même que c'est l'ace des Dodgers, peut-être pas encore dans le cœur des fans des LA, puisque Clayton reste quand même. Voilà, mais Walker Buehler, c'est la nouvelle pépite, la relève, et il le prouve sur le terrain. En post-season cette saison, il a 1,89 d'ERA. En carrière, il a 2,44 d'ERA en post-season. Donc vraiment, c'est vraiment un gros monstre. Lui, il peut lancer un peu plus que Charlie Morton. Donc vraiment, la vraie question, ça va être de savoir combien de manches vont durer les aces. Parce que ça va être très difficile de marquer des points contre eux. Et après, juste pour terminer, ça va être très important de voir comment les managers vont gérer un peu justement l'après de ces aces. Parce qu'on l'a vu dans le match 2, le petit reproche je ne sais pas, mais Dave Roberts, on peut dire entre guillemets presque abandonné le match, puisqu'il n'a pas lancé ses meilleurs lanceurs pour terminer le match. Il a lancé un peu ses seconds couteaux comme Jack McGee, il y a Wood, il y a Victor Gonzalez qui sont allés sur.
Comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Ça s'explique ou pas?
Bah c'est une gestion des World Series. Tu peux pas lancer tous tes meilleurs joueurs tout le temps parce que bah forcément à un moment donné ça va finir par craquer. Donc il faut savoir un peu aussi se dire bon bah on sacrifie entre guillemets, parce qu'on sacrifie vraiment aucun match, il y a pas de match à sacrifier en World Series, mais il faut savoir aussi se dire que bah c'est une série, c'est le meilleur des 7 matchs, donc il faut en gagner 4, donc il faut on peut pas par exemple lancer son closer 7 matchs de suite par exemple, donc il y a forcément un moment où il faut faire appel à d'autres joueurs, et on l'a vu dans ce match 2, il a peut-être fait une croix justement sur ce match pour se concentrer sur la suite. Donc à voir comment ils vont gérer ce match 3, mais comme on l'a dit, comme c'est le match le plus important de la série, je pense qu'on va avoir droit à toutes les stars sur le monticule. Donc c'est vraiment un must watch pour tout le monde, parce que il va y avoir du spectacle, que ce soit sur le monticule en attaque ou même le duel des coachs. Donc ça va être un match très très intéressant, et ça va surtout donner le ton pour la suite de la série, parce que pour le match 4, donc le match d'après, ça va être un duel de bullpen game apparemment, de ce qui est prévu. Donc voilà, il va falloir aussi que dans ce match 3 les lanceurs lancent beaucoup beaucoup pour pouvoir aider un peu le bullpen, parce que le match suivant sera réservé à nos amis du bullpen.
Bon, s'ils sont pas, ça va donner une bonne indication comme le game 3, parce que si le bullpen des Rays n'est pas... Ouais, voilà, exactement. Il va falloir bien observer le bullpen et voir comment ça se passe. On n'a pas les cotes aujourd'hui, Winamax. On vous rappelle qu'on a démarré notre partenariat avec eux depuis cette semaine. Et on vous offre donc sur les réseaux sociaux et notamment Twitter des free bets. 5 x 10 free bets à gagner. Il faut juste retweeter tout simplement le post et vous serez éligible. On fera un tirage au sort, je crois, ce dimanche 25. Et puis, on prendra contact avec le gagnant pour lui offrir tout ça. Malgré le fait qu'on n'ait pas de cote, je vais quand même vous demander de vous mouiller. Le Game 3, Raina, il est pour qui ?
Le Game 3, il est pour les Rays.
Waouh ! Donc, ouais, grosse cote. Du coup, ouais. Ils enchaînent.
Oui, ils enchaînent parce que Morton va faire une sortie, la sortie de sa vie.
Ok. Voilà. Ok.
Il a déjà fait la sortie de sa vie.
Mais il va la refaire. Ça va être celle qui va passer au-dessus de. Je pense que. Il faut.
Ok.
Bon. Ça veut pas dire qu'ils iront gagner le match, le septième match. Ça, je sais pas. Bon. Mais celui-là, il est pour les Rays.
Ok. Ouais. Ok. Marion, Game 3 pour.
Moi, j'aime beaucoup Charlie Morton, mais comme Martin l'a dit, le problème, c'est qu'il n'en fait pas beaucoup, et j'ai peur que ça soit encore le cas. Et donc, sur la longueur, je vois peut-être Wheeler marquer plus ce match. Donc, pour moi, match 3, pour les Dodgers dans un match extrêmement serré, là, avec pas beaucoup de points, et par contre, RS près de 4, et on continue comme ça à se courir après.
Bon, ouais, ça va être une série assez longue. Moi, je suis d'accord avec vous tous, hein. Ils vont, à mon avis, se coller le train là pendant quelques jours encore. Martin,
faut que je tranche, c'est
ouais,
ça
ouais, vas-y.
Les deux ont sorti des bons arguments. C'est le choix du cœur contre le choix de la raison, encore une fois. Je pense que les Rays vont l'avoir parce que c'est vraiment le match capital pour eux. Parce que s'ils n'arrivent pas à back-up Morton, qui est leur meilleur lanceur en post-season, ça va leur faire un gros coup derrière la tête pour la suite de la série. Donc je pense qu'ils vont tout donner sur ce match. Et je pense une petite victoire pour les Rays. Ils vont sortir tout leur armada offensive du côté du bullpen. Donc petite victoire des Rays.
Bon, petite, mais victoire des Rays. Ok, bah écoutez, on note ça. On va suivre, bien sûr, le Game 3. Ce sera cette nuit sur Bein Sports à partir de 2h du matin. Restez connectés, ça devrait être très, très, très chaud. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, via Twitter, au podcast Hype. Vous recevrez, bien sûr, des notifs à chaque fois qu'on publiera du contenu. Il y a beaucoup de choses, hein, la NBA, même si ça s'est arrêté. La NFL est en pleine saison, donc n'hésitez pas. Le temps pour moi de remercier Raina qui est ici chez elle. Hein. Je le répète, Raina, si tu veux être là avec nous, ta place est d'ores et déjà réservée. Merci Raina.
Ça serait un plaisir. Merci à vous en tout cas.
Bon, à très vite. Prends soin de toi. Ouais, Martin, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Fidèle au poste. Toujours un plaisir de débriefer, de discuter avec toi. Baseball, on sent la passion.
Pareil.
On sent la passion malgré le fait que les Astros ne soient pas invités à cette table.
Ouais.
Marion, merci beaucoup Marion. Merci d'être avec nous. Et puis
un petit mot, c'était vraiment sympa de retrouver Raina par conversation interposée. On a joué pas mal de fois l'une contre l'autre, donc c'était sympa de se retrouver. Donc,
et d'ailleurs,
c'est d'avoir une grande joueuse.
Qui a le plus de victoires sur
moi, c'est facile, j'étais tout le temps deuxième, vice-championne de France, derrière Raina. La question ne se pose pas. Si Raina était sur le terrain, on pouvait être que deuxième et vice-championne de France. Donc, voilà.
Ok. Bon, on avait les championnes aujourd'hui avec nous, vice ou championne de France et d'Europe. C'est un honneur pour nous de vous avoir, les filles. On vous laisse du coup. Je vais couper ça. Je refais. Viendra donc lundi soir comme prévu. À bientôt. Portez-vous bien. La pandémie Covid est là, donc faites attention à vous et on se retrouve très vite. Ciao.
cheat, cheat, cheat.